tous les samedis, 11h, midi 30.
Sortez du cadre.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Nico Saliagas.
Bienvenue à tous et merci, vous écoutez Sortez du cadre. Et pour vous remercier d'être avec nous, on vous a concocté une émission savoureuse. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux invités d'envergure, un chanteur qui a marqué l'histoire de la musique française, une des plus belles et des plus talentueuses actrices du cinéma mondial. Et si je vous dis 90 millions de disques vendus, 23 albums, 300 chansons, des milliers de concerts et des millions de billets, des dizaines de films et des pièces de théâtre, si je vous dis La maladie d'amour, Les lacs du Connemara, Je vais t'aimer, En chantant, vous l'avez compris, on parle de Michel Sardou. Il n'est pas venu seul, il y a ses fans. Elle était danseuse de ballet puis mannequin, mais c'est en tant que comédienne que nous la connaissons tous, d'origine allemande. Elle s'est jouée aussi bien dans la langue de Goethe, de Molière ou de Shakespeare. On a pu la voir dans Trois, Inglourious Basterds, Les Garçons et Guillaume à table, Joyeux Noël. C'est une habituée du Festival de Cannes et l'égérie de la marque Chanel. C'est la sublime Diane Kruger qui nous rejoint dans un instant. Christine Béroux dressera un portrait décalé de Michel Sardou et dans mes instantanés, mes coups de cœur de la semaine, on va recevoir la chanteuse Jennifer pour une narration de conte de Charles Perrault. Côté live, c'est une mère et son fils que nous accueillons, Madison Noir and Mama Bear, originaire du Texas. Ils parcourent les scènes du monde entier en chantant du blues et du folk. Vous écoutez Europe 1, c'est Sortez du cadre, souriez, ça commence maintenant.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Bonjour Michel Sardou. Très
merci.
Heureux de vous accueillir dans Sortez du cadre sur Europe 1. On va parler théâtre avec vous ce matin, puisque depuis mardi, vous jouez au théâtre de la Michaudière aux côtés de Marianne Chazelle, notamment dans une pièce intitulée « Représailles ». Je vous ai vu mardi, c'était la première. Vous êtes arrivé très décontracté. Je me suis dit, il stresse pas, ça y est, maintenant il est chez lui. Est-ce que c'était une illusion ou vous stressiez véritablement ?
Non, je ne stresse pas véritablement en fait. J'ai toujours l'inquiétude de bien faire, de dire est-ce que le texte est en place, est-ce que j'ai pas de... Parce qu'il y a certains mots que je n'arrive pas à dire certaines fois. Je bloque sur certaines phrases, sur certaines tournures de phrases.
Laquelle, par exemple?
Là, ça me vient pas tout de suite, toi. C'est un exemple. Mais, mais j'ai pas le stress de rentrer sur scène, si tu veux. J'ai pas le trac, en fait.
Ouais.
Parce que le trac, c'est la peur de se montrer. J'ai pas la peur de me montrer.
Ça fait 50 ans que vous le faites, en même temps.
Oui, en plus, c'est pas d'hier, quoi. Ouais. Je te remercie de le rappeler, c'est sympa.
Je raconte l'histoire en quelques mots. Vous êtes en couple avec Rosalie, incarnée par Marianne Chazelle. Vous venez de marier votre fille au cours de la soirée. Votre femme vous voit danser un slow langoureux. Et quand vous vous retrouvez tous les deux dans la chambre de l'hôtel, elle vous dit « Mais c'était qui cette blondasse ?» Alors au départ, vous niez la connaître. Et puis finalement, on va se rendre compte que la blondasse habite dans le même hôtel et que vous l'aviez invitée ou elle était venue de son propre chef au mariage de votre fille.
Non, je l'avais invitée.
Bah voilà, c'est votre maîtresse en fait.
C'est ma maîtresse.
Et à partir de là, va commencer tout un tas de révélations, d'imbroglio.
C'est qu'elle va m'obliger à rompre systématiquement et méchamment avec elle d'abord, puis avec les autres après.
Il est misogyne dans la pièce ? Non, en tout cas, il collectionne des maîtresses. Mais est-ce qu'il aime les femmes ? Au moins, il dit qu'il aime sa femme malgré tout.
Oui, il aime sa femme malgré tout. Mais enfin, c'est un sauteur, quoi. Bon. Mais c'est pas moi qui suis en cause, là, c'est l'auteur.
Oui, mais en même temps, je me suis laissé dire qu'il a écrit la pièce en pensant à vous.
Il écrit toujours des pièces en pensant à moi, ce salaud, ouais. Moi, ce que j'adore jouer, c'est les contre-personnages. C'est-à-dire, d'abord, rire. Le rire, ça, c'est la première chose que je demande dans une pièce. Que le public sorte de là, oublie ses emmerdes quotidiennes, etc. Mais surtout, ce que j'aime jouer, c'est les contre-emplois. C'est-à-dire, il est menteur, il est voleur, il est radin, il trompe sa femme, il sait pas mentir,
il est touchant à la fin.
Et puis finalement, à la fin, il est touchant quand même, parce qu'on est tous un peu comme ça. Tout le monde ici, j'imagine, certains, tout du moins, sont un peu faux cul. Voilà.
Michel Sardou, notre invité ce matin sur Europe 1. On parle de Représailles, la pièce que vous jouez depuis mardi au théâtre de la Michaudière avec 7 autres comédiens dont Marianne Chazelle. Restez avec nous, on sort du cadre ce matin avec un grand artiste jusqu'à 12h30. À tout de suite.
11h, 12h30 sur Europe 1.
Sortez du cadre.
Nico Saliagas. Michel Agace.
On sort du cadre avec Michel Sardou ce matin, qui est sur les planches du théâtre de la Michaudière pour une pièce intitulée Représailles, une pièce très très drôle. Il y a qui dans la salle? Moi j'ai vu pas mal de générations.
Écoute,
qui vous suit?
Il y a des gens fidèles qui me suivent depuis longtemps, qui viennent plusieurs fois, et puis il y en a d'autres qui me découvrent parce que, tu sais, depuis que le film machin là, Bélier,
La famille Bélier,
ouais, est sorti,
Je vole avec
Je me suis fait une nouvelle clientèle, figure-toi.
Des gamins?
Oui. Et ne croyez pas, c'est pas les sourds-muets, hein. Non. C'est des tout petits enfants, ça va de 4 à 10 ans et demi. Alors, je sais pas mon prochain concert où il se passera, mais je le fais à Bercy. Quand je vais chanter « J'accuse, je vole », tu vois.
Mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'une chanson peut traverser les modes et revenir.
Mais toutes les chansons peuvent faire ça, toutes les chansons. Ce qui vieillit, en fait, c'est la manière dont on les a enregistrées. Parce que les chansons qu'on enregistrait il y a 30 ans, par exemple, n'ont rien à voir. Parce qu'on avait d'autres matériels, on avait un matériel beaucoup plus archaïque, plus simple. Ça a vieilli. Mais la chanson en elle-même... Tu reprends n'importe quelle chanson de grand auteur. Il y en a un qui nous a quittés, c'est Guy Béard. C'est un immense auteur de chansons. Ces chansons n'ont pas vieilli. Il faudrait simplement maintenant les remettre peut-être dans un contexte actuel. Voilà.
Dans cette émission, mon cher Michel, nous avons des questions blanches et des questions noires. Il y a devant vous une corbeille blanche. Et la même chose avec les questions noires. Les questions noires sont un peu poil à gratter. Les blanches sont un peu plus, comment dire, cucu la praline.
Voilà. Il y a des méchantes et des très méchantes, quoi.
Ouais,
c'est ça.
Voilà. Ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vous qui choisissez.
Alors, je vais au hasard.
Au hasard. Question blanche. Michel Sardou, notre invité ce matin sur Europe 1.
Alors, question blanche. Vous ne voulez plus faire de chansons politiques, mais si vous deviez en faire une aujourd'hui, vous parleriez de quoi? Eh ben, je parlerai de tout sauf de la politique.
Ça y est, vous avez donné, en fait, ça. Ça fait plus vendre, en plus, la politique.
C'est pas que ça fait vendre, c'est que dire quoi? Il y a beaucoup de gens dans la rue, tu sais, c'est très curieux, ça. Il y a un événement qui se passe, par exemple, je ne sais pas, moi, des gens qui, malheureusement, perdent leur emploi parce que l'usine ferme ou parce que... Je ne parle pas des réfugiés, malheureusement. Alors là, non, ça, c'est l'horreur. Ou bah, plein d'événements, il dit, mais pourquoi vous ne faites pas une chanson là-dessus? Mais je dis, mais tout ne se fait pas en chanson. On peut tout dire en chanson, c'est vrai. Mais il y a des choses où la chanson ne résout rien. Je ne connais pas une chanson qui a rendu heureux un peuple.
En même temps, vous avez chanté...
J'ai chanté, mais pas politique, c'était social.
Ouais.
Le France, c'est pas une chanson politique. C'est une chanson sociale, ça me faisait chier de voir partir ce bateau qui était quand même un chef-d'œuvre de notre industrie, des gens qui avaient travaillé des heures et des mois et des années à faire le plus beau bateau du monde, et je me le retrouve à Miami, j'avais loué une maison à Miami à l'époque, il était en bas, au fond, au bout de ma piscine, tu vois. Ça m'a foutu en rogne, enfin, plutôt de la Noé qui m'a mis sur mon oreiller, écrit un truc, je suis la France,
l'auteur,
pas la France.
L'auteur, ouais. Est-ce que vous regrettez des chansons, justement, que vous avez chantées? Des chansons à texte, des chansons...
Il y a des chansons que j'aurais pu mieux faire, mais il faut bien se rendre compte que les chansons, c'est pas... Il faut tenir compte de l'âge où on les écrit. Les chansons les plus contestées ont été écrites quand j'étais très jeune. Pourquoi? Parce que j'écrivais, pour moi, c'était des chansons, j'écrivais 8 à 10 chansons par jour. Tu vois, je
et
cherchais
c'était
pas.
L'état d'esprit de l'époque, surtout.
Bon. Oui, puis pour moi, je pensais pas que ça allait déclencher une guerre. Tu vois, et si, ça a déclenché une guerre.
C'était pas une pub, au fond aussi.
Non, je t'assure que non. Au départ, je dis, mais pourquoi ils m'emmerdent? Quand j'ai écrit Les Colonies, par exemple, ils me disent, les colonialistes, ils sont cons, quoi. C'est l'inverse que j'ai voulu dire. Tu vois, c'était au second degré. Or, en chanson, au second degré, au revoir, ça passe pas. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y a des mots qui font de la peine aussi. Alors là, j'ai fait attention. Mais là, j'avais pris déjà 5 ans d'heure de vol. Donc on se rend compte déjà qu'il y a des choses où il ne faut pas mettre le doigt parce que là, ça touche le cœur de certaines personnes. Donc là, je suis méfié.
Vous avez pris du plaisir quand même à provoquer un petit peu?
De temps en temps, oui, rien pour les faire chier.
Ouais. Oui. Michel Sardou est là. Depuis 50 ans, ça dure. Et le lien avec vous est toujours d'actualité. Et si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille, chers auditeurs, d'aller voir la pièce Représailles au théâtre de la Michaudière à Paris. Dans un instant, on continue les questions noires et blanches avec vous, Michel. Souriez, vous êtes à la radio, on sort du cadre, c'est samedi matin, c'est Europe 1. Merci de fidélité. Voici tout de suite un titre que j'aime beaucoup, The Avengers, Castle in the Snow. We'll be right back.
fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting. Every day a little bit more.
Que c'est beau avec le soleil en ce samedi matin. L'excellent DJ niçois The Avener avec ce succès qu'il méritait, ce titre Castle in the Snow, extrait un très bel album qui est sorti au mois de janvier qui s'appelle Wandering of the Avener sur Europe 1.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Nico Saliagas.
Michel Sardou est avec nous. Et il est sur la scène du théâtre de la Michaudière pour représailles. Alors c'est assez drôle parce que votre personnage dans la pièce, Michel, dit « J'aime pas la chanson française ». Il y a des clins d'œil. Hein. Je ne vais pas raconter toute la pièce, mais il y a un clin d'œil à un grand chanteur aussi de la chanson française. Et vous le faites avec un peu d'autosarcasme.
Bien sûr. Bah, c'est une pièce qui veut ça.
On ne peut pas oublier le chanteur même quand on est acteur.
Bon, si on l'oublie complètement, même quand on chante, d'ailleurs, on l'oublie quelquefois.
vous avez tout assumé, en fait. Vous avez tout assumé.
Tu sais, je vais te dire, c'est semblable et différent, on va dire. C'est beaucoup moins fatigant de chanter que de jouer la comédie. Ça, c'est la seule vraie différence.
Pourquoi ?
Je sais pas. Quand tu chantes, tu imposes ton rythme, c'est-à-dire ton rythme de spectacle. C'est toi le chef d'orchestre.
La chanson est à votre service, voilà, c'est pas l'inverse.
Les musiciens sont derrière et ouais. C'est moi qui donne le départ. Mais au théâtre, en revanche, là, on est obligé de suivre un rythme obligé par le metteur en scène, parce que pour que vous ayez l'impression qu'on se déplace naturellement, en fait, on se déplace pas naturellement. On se déplace beaucoup plus vite. Quand je suis en scène, soi-disant, il y a des abrutis qui me disent « vous bougez pas sur scène ». C'est pas vrai, ouais. J'arrête pas de bouger,
quand
je déconne,
chantez,
je cours,
ouais.
Je remasse les choris, je redescends, je danse pas, c'est vrai. Bon, ouais. Ou alors très peu pour...
Si, vous avez un petit déhanché.
J'ai un petit déhanché, oui, ouais. Bon. Mais c'est pas Claude François, que je veux dire, c'est pas... Mais je bouge, mais sauf que on est moins fatigué, c'est-à-dire quand tu chantes... tu viens par exemple me voir, si tu viens me voir en province, dans une grande salle, etc., je dis tiens, où je vais l'emmener bouffer ce soir, je vais peut-être aller à...
Ah, on pense aussi à ça.
Si on est à Lyon, on va aller chez Chabert, si on est à Marseille...
Et vous chantez La maladie d'amour,
et
très convaincu.
Je pense La maladie d'amour ou n'importe quoi, je pense à ça. Tiens, la fille du 6e rang, elle est pas mal.
On peut faire ça.
Oui, bien sûr.
Et pas quand on joue de la comédie.
Quand on joue à comédie, non, c'est impossible.
Vous pouvez pas avoir une partie qui pense à autre chose.
Non,
vous êtes connecté, vous êtes face à votre partenaire.
Ouais, quand même,
ouais. Une question noire, une question blanche, Michel, histoire de vous découvrir. Non, c'est au choix.
Je,
on alterne. Michel Sardou, sans langue de bois, comme à son habitude ce matin.
88% des Français vous considèrent comme un monument de la chanson française. Vous n'avez pas eu trop de visites pour les journées du patrimoine. Ça, c'est marrant, ça.
Ça arrive.
C'est très bien, ça. J'ai été bourré, mon vieux, j'ai été bourré. J'ai monté les escaliers, descendu. Mais tu sais qu'il m'est arrivé une vraie histoire comme ça. Je faisais construire une maison en Corse. Et donc il y avait tout... Enfin, c'était les débuts du chantier, donc tous les briques, les carreaux de salle de bain,
ouais.
Etc.
Mosaïque, oui.
Puis tous les jours, l'architecte venait... Putain, il me manque des carreaux de salle de bain. Il dit, où ça passe, ça? En fait, il y avait des gens qui venaient le piquer en souvenir. Pas méchamment, pour avoir un souvenir. Et un jour, je tombe sur une femme, je dis, mais vous êtes en train de me piquer ma salle de bain. Elle me dit, ah bah, écoutez, hein, si vous avez cette maison... Elle n'avait pas tout à fait tort, cette femme. Vous devriez faire une journée porte ouverte. Parce que, en fait, vous nous la devez. Je la regardais comme ça, puis je me suis dit, au fond, elle n'a pas tort. Si elle avait pas acheté mes disques, si elle était pas venue me voir, je sais pas combien de fois en concert, j'aurais peut-être pas eu cette maison en Corse. Mais j'ai pas fait les portes ouvertes quand même, mais bon.
Michel Sardou, dans un instant, une jeune femme amoureuse de vous va vous faire une déclaration et va vous dresser le portrait. Elle s'appelle Christine Berrou. Elle arrive juste après ça.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Nico Saliagas.
Nous sommes ensemble, comme tous les samedis, jusqu'à 12h30 sur Europe 1. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires sur Twitter avec le hashtag SDC. Michel Sardou est avec nous, mais Christine Berrou aussi. Je vous laisse entre les mains de cette charmante jeune femme. Christine.
Bonjour à tous, alors on en a parlé, effectivement la semaine dernière c'était les journées du patrimoine, on pouvait visiter les monuments, et bien aujourd'hui c'est un monument qui vient nous visiter. Michel Sardou, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des Michel qui ont marqué la chanson française avec Michel Fugain, Michel Berger et Eddy Michel. Ce qui marque dans vos chansons, c'est la diversité des sujets, beaucoup de chansons d'amour mais aussi beaucoup de chansons sur les rapports parents-enfants. Hein, vous êtes un peu le Françoise Dolto de la chanson française. Et vous avez même une chanson, Les Vieux Mariés, qui elle est plutôt de la science-fiction, parce que c'est l'histoire d'un couple marié depuis très longtemps et qui s'aime encore. Une chanson qui a marqué votre carrière, c'est aussi Musulmane, qui vous a fait gagner une victoire de la musique en 87. En fait, il y a eu deux Musulmanes à être primées dans l'histoire des victoires de la musique. Une fois, c'était votre chanson, et une autre fois, c'était Diams. Vous êtes un grand séducteur, vous aimez les femmes. Dans votre chanson, Le Surveillant Général, vous rêvez même d'un monde rempli de femmes aux cheveux roux. Alors c'est bête, vous auriez dû arriver plutôt Europe 1, parce que dans l'émission d'avant, en fait, il y a Natacha Polony. Mais bon, vous avez côtoyé de grands politiques, notamment Mitterrand, qui adorait votre chanson « Je ne suis pas mort, je dors ». C'est fou parce qu'aujourd'hui, pas mal de gauchistes adoraient que Mitterrand ne soit effectivement pas mort et se réveille en 2017. Alors, comment ne pas parler enfin de votre fort caractère et de quelques polémiques, notamment avec votre chanson sur les colonies? Vous dites souvent que les gens manquent de premier degré en vous écoutant. Oui, et en plus, je voudrais dire, c'est pas juste. Parce que Pierre Perret aussi, il a fait une chanson sur les colonies. C'était les jolies colonies de vacances. Et lui, il a eu aucun problème.
Non.
Vous disiez tout à l'heure que c'est parce que dans vos chansons, vous dites je et que forcément, on pense que vous parlez en votre nom. Alors j'ai une question parce que dans En chantant, si quand vous dites que vous avez fait l'amour 10 fois, vous ne parlez pas de vous, vous allez faire tomber à 5 rémites. Mais bon.
Non, mais là, je me vante.
Donc c'était pas vrai. Je suis très déçue.
Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais par 10,
c'est quand même pas compté, oui.
Vous avez une autre passion qui fait aussi de vous un coureur, ce sont les courses hippiques. Tout ce que je vous souhaite, c'est donc de faire courir vos chevaux aussi bien que vous avez fait courir la maladie d'amour. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir, d'autant que vous étiez parrain de la Star Academy en 2004.
C'est vrai,
et oui. Alors c'est chouette de vous voir avec Nikos, le seul de cette année-là à avoir fait carrière.
C'est vrai, elle a raison.
C'est vrai en plus. Alors, hâte de vous voir dans Représailles, l'histoire d'une femme qui se venge des infidélités de son homme. Et pourtant non, ce n'est pas l'adaptation au théâtre du livre Merci pour ce moment. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais les blagues sur Traveiller, mais quoi, après tout, Johnny, il a bien dit 3 fois qu'il arrêtait la musique. Alors bon, pour conclure, je dirais que ce qui est impressionnant dans votre biographie, c'est que chez les Sardou, on est artiste de père en fils depuis 1868, puisque votre arrière-grand-père était mime. Vous allez fêter vos 50 ans de carrière, mais votre famille, elle, fête ses 150 ans de carrière. Vous qui avez chanté femme des années 80, avez été un homme des années 80, mais aussi des années 60, 70, 90, 2000, 2010. Michel Sardou, rendez-vous donc en 2020. Merci de votre attention.
J'ai pas ma carrière, j'ai besoin d'être ma carrière.
Christine Berrou.
Charles Aznavour a 91 ans, il chante encore sur scène et il a son public, il continue
monsieur,
à faire son
monsieur,
métier.
Il n'y a
pas d'âge, c'est quoi la limite?
Moi je crois que si quand même,
ouais.
Je crois que si.
Eddy Michel a arrêté avant, Eddy, avant d'être
indigne. Eddy, c'est autre chose. Bon, il a fait un choix. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas vraiment son choix. On n'en a pas parlé en fait. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, bon, bah, ça va... D'abord pour des raisons tout simplement physiques, vocales. Moi, je vois déjà aujourd'hui, je ne peux plus chanter les chansons dans les tonalités originales. Mais je veux dire, on peut aller jusqu'à un certain âge. On peut aller tant que le public a envie. Pourquoi ne pas faire plaisir au public qui vous aime bien? Moi, ce que je comptais faire, puisque je pense que ça va venir à ça, ta question plus ou moins, c'est que bien sûr le théâtre m'attire et que je vais aller de plus en plus vers le théâtre parce que je pense que c'est plus dans mon physique, dans mon âge, dans ce que je peux jouer. Mais en revanche, je ferai une tournée, peut-être un disque, mais pas à n'importe quel prix, pas un disque pour faire un disque. Faut vraiment que les chansons soient bonnes. Tu vois, si c'est pour sortir un disque, on s'en fout. Je veux dire, les gens s'en foutent. Ce qu'ils aiment, de toute façon, c'est les anciennes chansons. Bon, alors j'en ferai 2-3 nouvelles, j'espère qu'ils seront costauds. Je ferai un petit tour... genre Olympia, pour faire plaisir aux gens qui m'ont toujours suivi, qui ont toujours été gentils avec moi, qui connaissent ma carrière par cœur, et une tournée, et puis au revoir, voilà. On passera au théâtre, si vous voulez me voir, vous viendrez me voir au théâtre, ou peut-être dans un film, dans un téléfilm, j'en sais rien,
voilà.
On verra. J'anticipe pas, mais je sais qu'à un moment...
Pas de pression de maison de disque,
pas de pression... Moi, j'ai des tonalités trop élevées. Donc, si tu veux, si je te chante le France en do majeur, mon pauvre petit père, ça va bien.
Ça passe pas.
Ouais. Ah ben non, on ne m'appelait plus jamais France.
Ouais, compliqué. Ouais.
La France, elle m'a laissé tomber. Ça dit autre chose.
Ça le fait quand c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi.
Michel Sardou, on va parler photographie avec vous tout de suite.
Sortez du cadre sur Europe 1,
la photo coup de cœur.
Dans cette émission, on essaie de décrire une photo via les ondes radiophoniques, Michel, de la contextualiser et de dire pourquoi elle est importante pour vous. Vous êtes venu avec une photo en noir et blanc.
Oui.
Vous êtes entouré de vos parents.
Je suis entouré de mon père et de ma mère. Mon père m'embrasse et ma mère aussi. Et c'est, elle a une valeur symbolique. C'était mon, la première fois que je passais en, en récital à l'Olympia. Alors j'ai été le premier.
À quel âge là ?
Oh, je sais pas, je dois avoir 20 ans, 20, 21 ans, tu vois. Et à l'époque, on ne passait pas, les jeunes ne passaient pas en récital à l'Olympia. C'était Brel, c'était Beco, c'était Aznavour, j'en passe, j'en oublie, pardon. Mais le premier qui a fait un récital et que j'avais pas assez de chansons d'ailleurs pour le faire, ce qui fait que je chantais deux fois les mêmes chansons, mais pas dans le même ordre. Mais ça, c'était les idées de Cocatrix à l'époque, bon. Et c'est la première fois que mon père venait me voir. Et mon père me disait toujours, mais t'as besoin de tout ce matos pour chanter, toi. Il comprenait pas pourquoi on avait besoin de, parce qu'on commençait déjà à grimper dans le matériel de scène, c'était déjà des infrabasses, c'était déjà des trucs. Il disait, t'as besoin de tout ça pour chanter, pour un micro, il chante, putain, il disait, c'est pas difficile. Il était vieille école.
À l'ancienne, ouais.
Ah, il était quand même content parce que ça s'était très bien passé, puis j'étais tout seul sur l'affiche de l'Olympia, c'est en grand, en rouge, là, c'est bon. Et ma mère, qu'elle était venue à tous les spectacles, déjà, mon père, il avait attendu un petit peu. Mais ma mère, ça me fait marrer parce que, on parle d'une pièce drôle, là, une pièce comique. Et à l'époque, je chantais des chansons assez rudes, comme J'accuse, je ne suis pas mort, je dors, L'an 1000.
Il y avait de la colère, ouais.
Vladimir Ilitch, tout ça, c'était violent. Enfin, c'était des chansons gueulardes, quoi. C'était des chansons à voix. Et ma mère me disait toujours, tu sais, t'as beau faire la gueule, rouler des mécaniques, tu seras un comique, hein.
Finalement, et aujourd'hui, vous faites rire.
Sur scène,
elle avait raison.
Elle avait raison.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents ? Qu'est-ce que vous gardez de vos parents ?
Je garde une carrière magnifique. Mon père n'a jamais été une grande, grande vedette, mais il était très aimé. C'était un deuxième couteau, ce qu'on appelle un très bon deuxième
populaire,
couteau.
Ouais.
Très populaire. Très aimé, ma mère aussi. Ma mère faisait rire beaucoup, était très drôle sur scène. Elle avait des réparties formidables qu'elle inventait souvent d'ailleurs. Ils m'ont appris la... Comment vous expliquer ça ? Parce que mon père ne m'a jamais donné de conseils en fait. On n'a jamais parlé, on ne parlait pas beaucoup avec mon père. C'est une génération, tu sais, où les...
Taiseux.
Du sud, c'est les taiseux. Et par contre, ce qu'il m'a appris, c'est la longévité. Et ne pas avoir peur de son physique qui évolue. C'est-à-dire ne pas vouloir faire toujours j'ai 20 ans.
La même chose tout le temps.
Voilà. Il m'a dit, bah, tu prends du bite, tu prends du bite. Tu perds tes cheveux, tu perds tes cheveux. Mais il me dit, si jamais tu te mets une perruque ou si jamais tu commences à te mettre du crayon, si il se faisait un peu urbain, il se mettait un peu de crayon, il dit tout de suite, ça va te changer la gueule et tu vas plus être crédible. Il faut que tu sois toujours crédible par rapport à ce que tu es, ce que tu montres. Voilà, j'ai appris ça.
Merci beaucoup Michel Sardou. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Rendez-vous au Théâtre de la Michaudière à Paris. Je suis allé le voir mardi, j'ai passé un moment effectivement délicieux parce qu'on reconnaît l'artiste, on voit le chanteur et en même temps il y a tellement d'auto-sarcasme, de jeu avec Marianne Chazelle et les autres acteurs. On peut en citer quelques-uns, Michel ?
Ah bah il y a mon copain, attends.
Il
y a mon porte-bonheur, il y a Laurence Pilvogel.
Mais oui.
Ah bah ça sans lui je peux pas jouer.
Michel Sardou, merci infiniment Michel. Rendez-vous au Théâtre de la Michaudière. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Diane Kruger et deux lives d'un duo étonnant d'une mère et de son fils. Il s'appelle Madison Ward and the Mama Bear. Sortez du cadre, c'est sur Europe 1 et ça continue juste après ça.
11h30 sur Europe 1.
Sortez du cadre.
Nico Saliagas.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Sortez du cadre. C'est tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. Il y aura du live tout à l'heure avec un duo étonnant, une mère et son fils. Ils viennent du Kansas, ils chantent du blues et ils nous présenteront leur premier album. Il s'appelle Madison Ward and Mama Bear. Mais tout de suite, je suis très heureux d'accueillir un mannequin, une actrice à la carrière internationale et qui est bien de chez nous en France, Diane Kruger.
Bonjour
Diane.
Bonjour.
Quand je dis que vous êtes un peu de chez nous, c'est que vous êtes en France depuis quand ?
Plus que 20 ans.
Mais généralement, les artistes partent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts. Vous, vous restez en France. C'est-à-dire que l'histoire d'amour a bien fonctionné avec ce pays.
Complètement. Je suis très amoureuse encore.
En quoi vous êtes devenue française, quelque part?
Oh, de tout. Hein. Je tout fais un peu. Hein. Je me suis mariée avec un Français.
Ouais.
J'ai appris la langue. Ouais. J'ai fait les cours Florent, donc les cours de théâtre en France.
En tout cas, vous arrivez dans un film qui est bien français, puisqu'il s'appelle Maryland. Le titre ne l'indique pas. C'est un film d'action, un thriller dans lequel vous interprétez la femme d'un riche homme d'affaires libanais qui a besoin d'être protégé. Vous vivez dans une belle propriété nommée Maryland, mais votre garde du corps n'est autre qu'un ancien soldat victime d'un syndrome post-traumatique de la guerre en Afghanistan. Et c'est Mathia Schoenaert qui incarne ce rôle. C'est un rôle que vous avez accepté tout de suite?
Oui. Tout de suite. Enfin, pour plusieurs raisons. Déjà, le rôle était beau. Le scénario, j'adorais, parce que pour moi, c'est un mélange de genres. À cause de Alice Vinocourt, notre réalisatrice, qui avait fait un premier film qui s'appelait Augustine, que j'avais adoré.
Magnifique film. Ouais.
Et elle a un vrai talent de mettre en scène. Elle est atypique. Et je rêvais de tourner avec Mathias. Parce que je trouve que c'est un super acteur et je l'ai découvert dans Boulette et à Cannes quand j'étais membre de jury.
Mathia Schoenaert, c'est la star du moment. C'est vrai qu'il a quelque chose de viril dans le film, d'entêtant, de prenant, de mystérieux aussi. Mm. Vous n'aviez pas tourné depuis 2 ans. Accepter un film, un thriller, c'est aussi vous remettre en danger quelque part, dans un autre registre, une fois de plus?
Oh, non, j'en avais tout simplement envie. Je trouve que vraiment le scénario était atypique. J'étais partie 2 ans faire une série aux États-Unis qui s'appelle The Bridge. Donc je rêvais de rentrer, de tourner en France et ça m'a tombé du ciel. Voilà.
C'est un garde du corps en fait dans le film, il va essayer de vous protéger parce que votre mari est impliqué dans des magouilles, on va vouloir vous faire du mal. Votre rôle à vous, c'est pas nécessairement l'épouse du riche homme d'affaires un peu nunuche qui a rien à dire. Au contraire, c'est celle qui va rentrer dans l'histoire, qui va se retrouver prise au piège dans une histoire qui n'est pas la sienne. Parlez-moi un petit peu de la relation avec ce garde du corps dans le film.
Eh ben Alice, elle voulait absolument qu'on se rencontrait pas avant le tournage parce qu'elle voulait justement jouer sur le fait qu'on se connaît peu et qu'on se regarde un peu, on sait pas trop si on s'aime bien dans la vie.
Généralement on prépare avant, on joue le texte là, rien du tout.
Et alors je trouve que ça se voit dans le film pour le bien, ouais.
Là, on le voit dans le film, mais on pensait que vous le jouiez en fait.
Non, je suis pas aussi forte que ça.
Vous le pensez ce que vous dites?
Non, je rigole.
Est-ce qu'on devient meilleure actrice avec le temps, quand on se regarde ou quand on ne se regarde plus?
Je pense qu'on devient meilleur acteur avec l'âge, certainement, parce qu'on a vécu plus de choses, donc on peut amener plus de choses dans un rôle. Et je pense que par contre, il faut arrêter de se regarder, oui. Moi, je me regarde jamais et surtout, il faut sortir un peu du milieu du cinéma.
Le microcosme, vous n'en faites pas partie, Diane Kruger?
Ça m'arrive de temps en temps, mais ce n'est pas ce que je préfère, en fait. Non.
Elle est avec nous, elle est notre invitée ce matin, Diane Kruger. On parle de Maryland, un thriller oppressant qui sort ce mercredi. Mais on a envie de rester et de savoir ce qui va se passer à la fin. Dans quelques instants, ma chère Diane, vous vous soumettrez aux questions blanches et noires. Les questions blanches sont gentillettes, les questions noires sont un peu plus poil à gratter, un peu plus embêtantes. Mais tout de suite, nous accueillons notre premier live. Si vous aimez le blues, restez avec nous. Il s'appelle Madison Ward and the Mama Bear. C'est une mère et son fils originaires du Kansas. À l'origine, Ruth, la maman, se produisait dans des petits cafés, des petits théâtres. Elle a mis sa carrière de côté pour élever ses 3 enfants. Et là, elle revient, mais avec son fils qui a 26 ans aujourd'hui. Ils chantent et ils jouent de la guitare ensemble. Ils ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Aujourd'hui, ils sortent un nouvel album. Ils étaient au Grand Rex le 8 septembre dernier. Et ce matin, ils sont dans Sortez du cadre avec Silent Movies. Merci d'être avec nous. Je vous laisse rejoindre la scène du studio Merlin. Voici Madison Ward and the Mama Bear.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Le live.
Get real funny, girl. So, oh, oh, oh. never bring your hands close together, baby.
Madison Ward and Mama Bear, single ici de leur album Skeleton Crew. On se retrouve tout à l'heure pour un deuxième titre en live où ils nous chanteront un classique, une reprise, Stand By Me.
Sortez du cadre sur Europe 1,
Nico Saliagas.
Nous sommes toujours avec Diane Kruger, la belle Diane Kruger à l'affiche de Maryland en salle, mercredi, un film qui avait fait partie de la sélection officielle à Cannes au printemps dernier. D'ailleurs, Diane, cette semaine, vous avez été honorée par le magazine Elle. Vous êtes le coup de cœur. Puisque c'est vrai que dans le film, vous êtes à la fois vulnérable, fragile et en même temps déterminée à survivre, à surtout s'en sortir jusqu'au bout. Est-ce qu'avec le temps et l'expérience, on joue avec plus de distance?
Je ne sais pas. Je crois que des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire avec plus de temps qui passe, j'ai l'impression que je me dévoile de plus en plus. Je sais pas comment expliquer. En fait, pour les scènes d'émotion ou des rôles, j'ai l'impression, comme vous me connaissiez un peu, on voit que c'est plus joué que, quand je suis vraiment moi, quoi. Et en même temps, par contre, j'arrive de mieux en mieux de rentrer à la maison et de faire un vrai cut avec.
Vous arrivez à switcher, comme on dit, à passer d'une chose à l'autre?
Je sais, ça n'arrive pas toujours. Si on a passé la journée à pleurer, par exemple, c'est difficile de rentrer et de faire la fête. Mais c'est pas très agréable pour les proches de rentrer et en plus faire la gueule.
Mais on y laisse des plumes, franchement. Quand vous passez la journée à pleurer, vous dites mais qu'est-ce que je fais comme métier de dingue?
Et oui, mais genre, ça vous fait du bien.
Ça fait du bien aussi.
Oui, parce que dans la vie, on pleure évidemment, mais ça nous arrive pas. Oui. Tout le temps. Ouais. Et je pense que les gens normaux, entre guillemets, on essaie toujours de quand même, on se livre pas tout le jour, on essaie de cacher un peu nos émotions, sauf les tout proches. Ouais. Et ben, moi, tous les jours, c'est l'extrême, quoi. Je saute un immeuble, je pleure, j'enterre quelqu'un, enfin, je veux dire. Donc, c'est des émotions très fortes, c'est addictif.
Et sinon, ça va en ce moment?
Non, ça va pas du tout. Sinon, tout va bien.
Dans cette émission, nous avons des questions blanches, un peu cuculapes. Praline, un peu Miss France, je suis content d'être contente. Et et les questions noires sont un peu plus dures, hein, un peu plus désopilantes. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui tirez au sort vos propres questions, ma chère Diane.
D'accord.
Allez. Question noire.
Noire, allons-y.
J'ai vu la main qui allait toute seule. Question noire. Diane Kruger, notre invitée.
Vous venez d'un petit village allemand, vous pensiez avoir plus de chances de vous retrouver un jour au Festival de Cannes ou à l'Oktoberfest?
C'est quoi l'Oktoberfest?
Alors, pour vous dire, je rêve. C'est donc la fête de la bière. Je ne suis jamais allée. Et je crois que c'est très très drôle. Alors, les gens sont très bourrés, qui me voient plutôt bien. et je rêve de mettre l'habit traditionnel allemand Et j'aimerais bien le faire.
Mais est-ce que lorsque vous étiez effectivement dans votre petit village natal avec votre famille, vous pensiez qu'un jour vous alliez sortir du village, faire une carrière internationale, voyager dans le monde entier ? Vous aviez cette ambition, Diane ?
J'avais l'ambition, oui. Enfin, je voulais pas forcément être actrice, mais danseuse. Et de toute façon, je suis jamais rentrée dans les cases, quoi.
L'esprit de contradiction ou vouloir être libre à tout prix et choisir ?
Libre, ouais, surtout. Ouais, et en plus j'étais à une école très catho, très 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 catho. Moi, j'ai détesté. Je me suis virée 6 semaines parce que je me suis levée en plein école pour décrier tout ça à l'église.
Vous avez dit quoi ? Je crois pas en Dieu.
Que c'était des mensonges, que c'était n'importe quoi. Il fallait arrêter. Oui, parce que j'avais appris que ma prof, qui était donc une bonne sœur, en fait, était lesbienne. Ah, donc elle nous racontait n'importe quoi.
Sur la chasteté et tout ça.
Ouais, c'était un peu n'importe quoi.
Elle est là avec nous, elle voulait vous dire, on n'était pas lesbiennes finalement. Donc vous étiez plutôt dans la réaction.
Oui.
Et vous vouliez vous en sortir, donc casser les codes et faire votre chemin.
Je voulais voyager, c'est pas horrible d'où je viens, hein, mais j'avais envie de voir le monde. J'ai toujours rêvé de vivre à Paris. J'étais fan de Romy Schneider quand j'étais petite. Mm-hmm. Et j'avais le poster d'elle et Alain Delon qui descend de l'avion.
Donc ça faisait rêver.
Ça me faisait rêver. Je voulais toujours venir ici, me marier avec un beau Français. Mmh. Voilà, c'est fait.
Et vous êtes avec un Américain aujourd'hui. Et Alain Delon, vous lui avez dit ça un jour ? Quand vous avez rencontré Alain Delon dans votre vie, vous lui avez dit ça ?
Non, je ne lui ai pas dit ça.
Par pudeur ?
Par pudeur. Et en plus, je pense qu'il n'était pas super sympa avec Romy Schneider. Donc du coup...
Vengeance. Voilà. Vengeance, on n'oublie pas. Et c'est vrai que vous défendez la cause féminine, Diane Kruger.
Bah ouais, il faut bien.
Et que l'actrice n'est pas considérée comme l'acteur, et vous en parlez souvent. Que ce soit
aux États-Unis, en France, c'est quand même un petit peu différent.
Ouais.
Mais aux États-Unis, c'est comme ça, c'est dégueulasse. Ouais.
C'est une histoire de cachet, c'est une histoire de...
De cachet, oui. Les studios estiment que d'abord, c'est le star masculin.
Ouais.
Et par exemple, on n'est pas payé pareil. C'est dégueulasse. Et même, je trouve ça bizarre que... Les mecs là-bas peuvent avoir 50 ans et la fille qui est castée, elle a à peine 25. Je trouve ça un peu bizarre.
Et vous leur dites, quand vous allez là-bas, vous faites un peu la syndicaliste de service.
Moi, je ne changerai pas le métier là-bas, mais j'ai une voix, donc tant que je peux en parler, je trouve que c'est bizarre qu'on accepte ça, en fait.
Merci Diane Kruger d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Si vous voulez trembler, chers auditeurs, être scotché à votre fauteuil, allez voir Maryland au cinéma dès le 30 septembre prochain. Dans un instant, retrouvez également Jennifer qui prête sa voix pour la narration des contes de Charles Perrault au Théâtre de la Michaudière. A tout de suite sur Europe 1. On sort du cadre ensemble ce samedi matin.
Tous les samedis, 11h, midi 30.
Sortez du cadre.
Sortez du cadre sur Europe 1.
Nicolas Saliagas.
Jusqu'à midi 30 avec Diane Kruger. Sortez du cadre, c'est tous les samedis à partir de 11h. Et dans quelques minutes, c'est une mère et son fils, Madison Ward and the Mama Bear, qui nous rejoignent pour un deuxième titre en live. Mais pour le moment, nous sommes toujours avec Diane Kruger, qui nous fait trembler, qui nous fait peur, dans le film Maryland, en salle mercredi. Diane Kruger. Vous brouillez les pistes en permanence. Vous m'avez dit, je voulais être libre quand j'étais gamine, quand j'ai quitté mon village natal. Mais même dans votre façon de faire votre carrière, si vous avez une façon de faire votre carrière, j'ai l'impression que vous brouillez les pistes. Vous pouvez à la fois appartenir à la famille de Hollywood, faire un film d'auteur en France, choisir de faire une comédie. Ça fait partie d'une volonté de ne pas être enfermé dans un carcan, dans une case.
Un petit peu, mais ça s'est fait aussi toute seule, c'est-à-dire je pensais pas du tout tourner à Hollywood, ils sont venus me chercher, vraiment je pensais de tourner ici, mais maintenant par contre c'est un vrai choix, j'essaie vraiment de tourner au moins un film par an en France, et de tourner là-bas, de faire des séries là-bas, j'ai fait une série pendant 2 ans, c'était génial, parce que des séries c'est carrément mieux ce qui se passe.
The Bridge.
Ouais, au cinéma, et c'était génial.
C'est Luc Besson qui vous a dit de faire ce métier, qui vous a dit mais arrête de faire le mannequin, fais l'actrice. C'est vrai ou c'est un mythe ?
C'est un petit peu un mythe parce qu'en même temps, enfin, il a vu une photo de moi dans un magazine, que j'étais très jeune, je parlais pas français, et il m'a fait passer un casting pour le 5e élément. Et que j'ai pas eu. Mais après, il m'a dit, avec ton physique, tu feras mieux être actrice que mannequin.
Qui vous a aidé dans ce métier ? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous êtes reconnaissant ?
Plein, tout le monde m'a aidé. Dennis Hopper, Guillaume Canet, Alice Winnicourt, enfin tout le monde, ça se fait pas toute seule. Hein. C'est vraiment Benoît Jacquot, je suis tellement reconnaissante.
Donc c'est pas un milieu d'enfoiré plus qu'un autre, on se tire pas dans le dos. Si vous êtes réglo, en fait, c'est ça. Il faut être réglo.
Bon, réglo, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un monde de fou quand même.
Ne pas piquer le rôle d'une copine ou de choses comme ça.
Bah, on peut pas piquer, ça dépend un metteur en scène s'il a envie de vous ou pas. Donc finalement, on n'y peut rien. Mais moi, j'adore le milieu parce que les gens sont dingues. Tout le monde est un peu à l'ouest, quoi.
À l'ouest. Vous, vous êtes dingue ou vous, vous êtes une fausse dingue, en vérité?
Okay. Je vais en parler avec mon psy, je sais pas.
Vous considérez que vous êtes aussi un peu à l'ouest, sinon vous ne feriez pas ce métier. Il faut être un peu dingue pour se mettre devant une caméra et ne pas avoir peur.
Oui, et y croire surtout.
Et y croire jusqu'au bout. On va parler photographie avec vous, ma chère Diane Kruger.
Sortez du cadre sur Europe 1.
La photo coup de cœur.
Nous allons voir si vous êtes vraiment dingue. Vous êtes
oui, c'est faisable, en plus.
Vous êtes venu avec une photo ou deux photos?
Deux photos, puisque je ne pouvais pas me décider. Donc mon cœur balance entre mon chat et ma médaille français de l'art des lettres.
Vous êtes chevalier des arts et lettres.
Exactement.
Chevalier, on dit peut-être chevalier.
Chevalier. Chevalier.
C'est masculin alors que c'est une reconnaissance.
Donc voilà,
aussi,
ça c'est moi. Très fière.
C'est Fleur Pellerin, la ministre de la Culture.
Exactement.
Qui vous a... agrafé
avec une très belle médaille.
Qu'est-ce que ça représente pour vous? La reconnaissance de la République française.
Franchement, c'était une. J'étais hyper émue. C'est une des plus belles jours de ma vie, je crois, parce que franchement, jamais j'aurais pu rêver et que la France m'a accueilli comme ça. Très sincèrement, ça peut paraître un peu cliché, mais moi, en tout cas, ça me touche énormément. C'est chez moi ici, j'ai jamais ressenti que
plus
on
que
regarde
Cannes,
pas.
Plus que ce qui se passe à Cannes, ce moment-là est un moment plus intime.
Ça va ensemble. Ensemble.
Il y avait qui dans la salle, par exemple? Vous avez invité qui? Les gens du métier, votre famille?
Il y avait ma mère, des amis. Guillaume Gallienne est venu gentiment. Benoît Jacquot, je crois qu'il était là. Enfin, tous les gens qui avaient envie de boire du champagne un après-midi.
Je vous l'avais dit, les femmes. C'est très normal, je ne vois rien de totalement... Voilà, il n'y a pas de folie dans ces photos-là. Peut-être le chat, parlez-nous un peu de ce chat.
Non mais c'est que je ne pouvais pas me décider entre le chat et la ministre.
Voilà. C'est vrai que...
Ouais. Alors donc la deuxième fois, c'est mon chat adoré.
Comment il s'appelle votre chat?
Hobbs, comme Calvin et Hobbes, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une bande dessinée.
Oui, ça revient maintenant.
Ah bon?
Je pensais que c'était le chat de Karl Lagerfeld que vous prêtiez entre Allemands à Paris, mais non.
Mais on en parle beaucoup.
Avec Karl, il a fait un bouquin, il a dédié un bouquin, il l'a photographié.
Alors son chat est nettement plus joli que le mien, et il a plus de personnel, son chat aussi, que le mien. Mais j'adore mon chat.
Il a un testament aussi, vous savez qu'il a un testament.
Oui, il paraît.
La chatte
de Karl. C'est pour ça que je passe souvent, passer un peu de temps avec lui au cas où.
Alors, c'est un chat mâle. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce chat? Qu'est-ce qu'il fait?
Il est malade, il a le cil à des chats. Mmh. Mais bon, ça va, il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Mmh. Il est très chiant. Mmh. Mon mec le déteste.
Ah oui?
Mais pour moi, c'est...
Un compagnon, c'est notre animal de compagnie en tous les cas. C'est la photo coup de cœur. Nous allons la poster sur Twitter et sur la page Facebook de l'émission Sortez du cadre. Avant de nous quitter, ma chère Diane Kruger, vous qui êtes à l'affiche de ce film haletant, ce thriller Maryland, une question blanche ou une question noire avant de nous quitter?
Blanche, non, j'en ai fait
une blanche pour la route. Allez. C'est parti.
Vous avez commencé le rôle comique tard, vous dites que Danny Boone vous a aidé à vous décoincer, il a fallu combien de verres?
C'est vrai que c'est autre chose la comédie, c'est difficile la comédie.
Ouais, c'était pas évident. J'adore de le faire, mais c'est vrai que... Enfin, en même temps, je le fais avec le meilleur, non? Danny Boone, il faut le suivre. On a pris beaucoup de verres ensemble pendant le tournage. Mais par exemple, c'est un ami pour la vie, je pense. Danny et moi, on s'est éclatés. J'adorais de retravailler avec lui.
La connexion a été une vraie connexion.
Oui, et d'ailleurs, c'est Pascal Chaumet qui a réalisé le film, qui est depuis malheureusement décédé. Mais on a fait un voyage génial ensemble.
Vous aviez également tourné dans Joyeux Noël.
Oui. Pas une comédie.
Oui, c'était un film émouvant où lui était tellement triste et tellement touchant.
Il était génial là-dedans.
Lui allait dans un registre qui était plus dramatique et ensuite c'est vous qui êtes allé dans son registre de la comédie.
Exact.
Merci d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Ce matin, Diane Kruger. Nous irons vous voir au cinéma dès le 30 septembre dans ce thriller Maryland. Dans un instant,
Je vous parlerai de mes coups de cœur de la rentrée, mes infotenés, avec notamment Jennifer qui prête sa voix à la narration des contes de Charles Perrault au théâtre de la Michaudière. Et nous retrouverons le duo, la mère et son fils, le groupe Madison Ward of Mama Bear, pour une reprise que vous connaissez tous, Stand By Me. Restez avec nous, vous êtes sur Europe 1, c'est samedi, on sort du cadre ensemble, juste après.
Sortez du cadre.
Tous les samedis, 11h, 12h30, sur Europe 1.
Les instantanés de Nico Saliagas.
On est ensemble jusqu'à 12h30 et comme chaque semaine, c'est l'heure de trouver mes coups de cœur culturels de la semaine, mes instantanés. Mon premier instantané, c'est la chanteuse Jennifer que l'on retrouve cette fois au théâtre de la Michaudière à partir du 14 novembre pour Il était une fois les histoires préférées des enfants. C'est une pièce dans laquelle elle prête sa voix pour la narration de contes de Charles Perrault aux côtés de Jean-Pierre Marielle. Un spectacle pour les petits et pour les grands aussi qui a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les célèbres contes de Perrault. Rencontre avec Jennifer.
D'une certaine manière, j'ai trouvé ça super de reprendre quelques grands contes de Monsieur Perrault, Charles Perrault quand même, qui parle à tous nos enfants, et de les remettre en avant dans un spectacle. J'ai trouvé ça génial comme idée. Ce sera un spectacle musical pour la nouvelle génération.
Qu'est-ce qu'on vous racontait comme histoire quand vous étiez gamine ? Avec quoi vous avez grandi ? La mythologie, des contes fantastiques ?
J'ai pas eu énormément d'histoires, mais un des seuls livres que j'avais tendance à réouvrir, c'était Le Petit Chaperon Rouge, voilà, qui m'a toujours fascinée. Enfin, j'ai toujours espéré en fait tourner la page et espérer trouver cette grand-mère vivante, et je la voyais pas vivante. Donc ça m'a traumatisée comme ça m'a fait du bien. Je ne sais pas comment traduire tout ça, mais c'est un des seuls livres qu'on avait à la maison, parce que après ça donnait dans les encyclopédies, les études de médecine ratées de mon père par exemple. Non mais bon, il y avait énormément de bouquins, mais il n'y avait pas assez de bouquins pour enfants.
Et à vos enfants, qu'est-ce que vous racontez comme histoire ? Qu'est-ce que vous leur avez lu quand ils étaient
plus petits ? J'en invente beaucoup. Ouais. J'en invente beaucoup, on fait beaucoup dans l'impro. Et puis après, je me sers un peu des images que je vois tous les jours, mais même de quelques peluches aussi parfois. Et du coup, on fait marcher un petit peu son imaginaire.
Maintenant que vous êtes maman et que vous adressez à des enfants, j'imagine que ça change tout. Parce que maintenant, vous savez, vous visualisez les gamins, j'imagine.
On ne sait jamais vraiment parfaitement comment s'y prendre. Chaque enfant est particulier, mais je pense aux enfants en général en acceptant ce type de projet. Après, c'est l'instinct maternel, oui, probablement, quelque part. Ouais. Mais même si j'avais pas été maman, j'aurais probablement été susceptible d'accepter. Ouais.
Il était une fois les histoires préférées des enfants adaptées et mises en scène par Agnès Bourri avec les voix de Jennifer et de Jean-Pierre Marielle. C'est à partir du 14 novembre au théâtre de la Michaudière, à partir de 4 ans. Mon dernier instantané, c'est un duo très original, une mère et son fils. C'est insolite, Madison Ward and Mama Bear. Vous êtes originaire des États-Unis, plus particulièrement du Kansas. Ruth, jusqu'à 22 ans, vous vous produisiez dans des petits cafés, des petits théâtres, et vous avez tout arrêté pour élever vos trois enfants, pour être à la tête de la famille, dont Benjamin, alias Madison, qui est avec nous. Et Ruth, vous n'aviez pas totalement arrêté la musique, car secrètement vous continuez, et un beau jour, vous vous êtes retrouvés, comme ici aujourd'hui, avec votre fils Madison, scène sur scène, et vous faites un carton. Est-ce que c'était une évidence de vous produire avec votre mère, Madison ?
Non, en fait, au début, ma mère jouait seule, et moi aussi, je jouais seule de mon côté, et puis progressivement, on s'est mis à jouer de la musique ensemble, et la progression aidant, eh bien, on a aimé ce qu'on a fait, et on a décidé de continuer sur cette voie.
Ruth, c'est vous la patronne ?
I'd like to be, but I don't think so.
Ouais, j'aimerais bien, mais je crois pas, non.
Qu'est-ce qu'on apprend quand on joue pendant des années dans des bars ou dans des cafés ?
You can be really intimate with the people that you sing to.
Ça m'a appris à être intime avec le public, à lier des contacts avec le public. Et maintenant, je transpose ça sur des scènes plus grandes. Ça nous a beaucoup appris. Et on a vraiment un sens de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux communiquer avec n'importe qui.
Qui vous a inspiré, Ruth ? Quels sont les chanteurs qui vous ont inspiré de folk, de blues ? Leonard Cohen, Bob Dylan. Quelle a été votre première inspiration ?
Well, at first, like you said, it was Dylan and Joni Mitchell, I'm reading her.
Oui, comme vous dites, j'ai commencé avec Dylan, right now, aussi Joni Mitchell, dont je suis en train de lire la quasi-autobiographie en ce moment. J'aime vraiment beaucoup les auteurs-compositeurs interprètes, les singer-songwriters, comme on dit.
Really
et ce ne sont pas des choses qui sont poppy, ce sont des choses qui ont du sens, qui ont une âme, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, parce qu'il y a de la matière, il y a de quoi faire.
Je vous ai vu chanter tout à l'heure et j'étais très impressionné par la façon dont vous vibriez. Hein, c'est tout votre corps qui vibrait. Alors que votre mère était plutôt en retrait, elle gardait le chemin et vous faisiez les vibes, quelque part, vos vibes de folk, presque. Ça vient d'où, ça ?
I'm not 100% sure.
Bah, je suis pas sûr à 100%. Ce qui est sûr, c'est que donc ma mère a toujours été fascinée par les singer-songwriters, les auteurs-compositeurs-interprètes, qu'elle m'a fait découvrir cette musique très tôt. Et puis je m'en suis éloignée pendant toute une période pour y revenir ensuite. Et c'est peut-être cette nouvelle perspective, en fait, qui m'a fait prendre conscience d'une nouvelle dimension et qui m'a fait créer cette nouvelle dimension, qui m'a fait la faire devenir mienne.
Dans cette émission, tous les artistes reprennent un titre qui n'est pas leur titre et vous avez choisi Stand By Me. Pourquoi ?
Well, one, it reminds me, my husband is home.
Ça me rappelle mon mari, en fait, qui est à la maison en ce moment à Kansas City. Et ça me rappelle à quel point il me manque et à quel point je l'aime et à quel point j'ai envie de retourner vers lui, de retourner le voir.
Voilà une belle famille unie qui nous fait le plaisir ce matin de venir d'en sortir du cadre. Vous avez triomphé au Grand Rex le 8 septembre dernier et vous repartez pour une grande tournée qui passera notamment par l'Angleterre, les États-Unis ou encore le Canada. Je vous laisse vous installer, prendre place maintenant pour cette reprise, on la connaît tous, Stand By Me, Madison Ward and the Mama Bear en live sur Europe 1 dans Sortez du Cadre.
Sortez du Cadre sur Europe 1,
le live. Thank you.
Big King, Stand By Me, repris par les Madison Warren, The Mama Bear. Je rappelle que leur album Skeleton Crew est disponible. Merci beaucoup. Sortez du cadre, c'est fini pour cette semaine. Courez voir Michel Sardou sur la scène du Théâtre de la Michaudière à Paris pour la pièce Représailles. C'est très réussi, ça fonctionne aux côtés de Marianne Chazelle notamment. C'est une pièce Europe 1. Et si vous voulez trembler, en revanche, ne ratez pas Maryland mercredi avec la belle Diane Kruger qui est sortie du cadre pour nous ce matin. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien, passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 11h. Bon week-end à tous, c'est à vous Sophie, je vous embrasse.
Mais moi aussi je vous embrasse Nikos, merci. Si vous voulez assister à l'émission et venir dans le public, vous allez sur Europe 1.fr au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. À suivre Patrick Roger sur Europe 1.